D'Europe numéro 1 à Europe 1, 50 ans d'archives sonores.
Ici Europe numéro 1.
Here is Europa numero 1.
This is Europe number 1.
À cette heure-ci, Maurice Sigel, je me retrouve au même endroit où j'étais hier soir, c'est-à-dire à environ 50 mètres de la barricade principale, au coin de la rue Pasteur et du boulevard La Ferrière.
Le jour de la fête à
Gilles. Ça va, mec?
Oui.
Ça, tout le monde sont là?
Ah oui, on se regarde.
Ça me paraît comment c'est mou, votre émission.
Oh là là! Oh, cette droite terrible de Monzon! Ouais!
Les pompiers sont descendus avec une corde pour vérifier si personne n'était tombé au fond du trou. Il n'y avait personne. L'écoulement. Merde, pardon. L'éboulement s'est produit pendant la nuit.
Mais dites-moi, de qui la mise en onde?
Pierre Arnaud de Chassis-Poulet, voyons.
Ah, bon, signé Pierre Dac et Francis Blanche.
Marc Tronchot.
Bonjour à tous, toujours ravi de vous retrouver. Bienvenue à Bordeaux, puisque ce dimanche, les enfants d'Europe 1 ont décidé de se décentraliser. Peut-être lassés d'un excès de jacobinisme, nous avons décidé de devenir Girondins. L'espace d'une émission que nous enregistrons donc aujourd'hui en public à Bordeaux, sur les bords de la Garonne. Ça change de la rue François 1er à Paris. Nous avons, grâce à Stéphane Place, ci-devant correspondant d'Europe 1 en région Aquitaine, réuni autour de notre table dans le studio improvisé dans l'enceinte du village rugby Quai des Chartrons, quelques enfants d'Europe 1, natifs de la région ou adoptés depuis longtemps, des enfants d'Europe purs et durs, des cadets de Gascogne, des fils de Guyenne, des fidèles de la station. Je vous les présenterai tous dans un instant, mais j'ai eu envie, pour introduire cette émission, de vous faire entrer avec nous dans ce pays. Et parmi les choix que j'avais, j'ai fait celui-ci, le pays d'où je viens, une des émissions références d'Europe 1 fin des années 70, animée par Alexandre Fronty, reçoit ce jour-là Jean Lacouture.
Le pays d'où je viens. Jean Lacouture. 56 ans, l'allure d'un jeune homme un peu fatigué, un long nez sur un visage fin, le sourcil en bataille et l'œil perçant, souvent habillé de costume de velours, Jean Lacouture est un Bordelais bon teint qui a vécu en Gironde jusqu'à l'âge de 20 ans. Son père était chirurgien, à l'occasion chirurgien des arènes, car il était un aficionado, un amateur de courses de taureaux. À l'époque, il est vrai, on y allait en famille, avec les enfants, le dimanche, tout le peuple au coude à coude, chartrons et ouvriers réunis pour assister aux mises à mort. Le petit Lacouture aimait bien ça, il ne s'en est jamais lassé, il aimait même devenu un spécialiste. Jean Lacouture, écrivain, journaliste au Monde et au Nouvel Observateur, passionné tout à la fois par la tauromachie, bien sûr, le monde arabe et l'Indochine, Lacouture le Bordelais, une ville un peu en marge, toujours marquée par l'occupation anglaise, l'ombre du prince noir.
À Bordeaux, on aime les Anglais, vraiment. Il y a une sorte de passion, de révérence des Anglais. Les Anglais ont longtemps été les meilleurs acheteurs du vin de Bordeaux, avant que ce ne soient les Allemands, et puis les Américains, et maintenant les Japonais. C'est une ville qui a de l'eau sous les yeux, si vous voulez. Beaucoup, quand vous arrivez à Bordeaux depuis Paris, vous traversez, vous passez sur ce pont, et vous avez une immense Garonne, vraiment très, qui est là extrêmement noble. Il y a ce croissant qui fait partie des armes de Bordeaux, et il y a cette admirable façade de 18e qui vous montre un Bordeaux qui s'étale, qui se présente à vous comme une danseuse qui fait la révérence devant vous après son adage, si vous voulez. Je crois que Bordeaux, c'est une ville au bord du fleuve, vraiment, qui se montre dans toute sa noblesse. C'est une ville humide au surplus. Bordeaux est une ville très humide du fait du ciel, parce qu'il y pleut beaucoup. C'est une ville brouillée, mouillée, un peu visqueuse, où l'on est dans le caoutchouc, dans l'imperméable. Ou non, où l'on est dans le crachin. Moi, je ne suis malheureusement pas un amateur de vin, non pas que je ne l'aime pas, je l'aime beaucoup, mais étant ce qu'on appelle anosmique, c'est-à-dire je suis infirme, je n'ai pas d'odorat, n'est-ce pas? Alors, pour goûter le vin, c'est quand même un handicap assez sérieux. Il me reste le palais, n'est-ce pas, qui est une des deux sources de la délectation pour le vin, mais enfin, je suis un manchot, si vous voulez, pour apprécier le vin, un manchot qui joue au rugby, n'est-ce pas? Alors c'est ennuyeux, c'est gênant, mais enfin, je fais de mon mieux, je l'aime beaucoup, mais je ne suis pas sûr de pouvoir distinguer un Aubryon 26 d'un Aubryon 29, ou Aubryon 34, non, je ne peux pas, j'aime beaucoup le Aubryon, tout particulièrement, j'aime beaucoup certains crus, plus particulièrement, plus que d'autres, mais enfin, je ne suis pas un amateur raffiné du tout. L'Aubryon, c'est le vin de Bordeaux, même pour le coup, c'est le vin qui est presque dans Bordeaux, c'est un vin de grave, qui est presque dans l'agglomération bordelaise, et qui est, pour moi, le vin le plus raffiné, le plus délectable, c'est le Bordeaux le plus bordelais, si vous voulez. Si vous voulez, pour distinguer entre un Bordeaux et un Bourgogne, alors là, je suis quand même capable, n'est-ce pas? Eh bien, le Bourgogne a beaucoup plus de corps, naturellement, a beaucoup plus de puissance, de chaleur, mais le Bordeaux a plus de raffinement, plus de distinction, si on peut dire, et parmi tous les Bordeaux, le plus bordelais, le plus raffiné, le plus léger, le plus impalpable, le plus distingué, c'est le Haut-Brion.
Une ode à la joie, un hommage à la ville et à la région où nous nous trouvons par l'un de ses plus brillants enfants. Les enfants, précisément les enfants d'Europe 1 réunis autour de cette table, je vous les présente. Jean-Paul Taillardas, journaliste à Sud-Ouest. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour.
Dominique Babin, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux. Bonsoir Dominique.
Bonsoir.
Marc Druard, ostréiculteur à Gujan-Mestras et président de la section régionale Conchilicole. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Bernard Avril, vigneron à Galgon, propriétaire de Château Pescot. Ça fait quoi de se retrouver de l'autre côté de la radio qu'on écoute depuis des années, Bernard Avril?
Bon, ça fait une drôle d'impression, parce que bon, on n'est pas tellement habitué à parler derrière un micro, mais c'est en même temps une satisfaction peut-être.
Vous écoutez depuis quand Europe, cette famille?
Europe, oui, cette famille, moi je crois aussi longtemps que mes souvenirs se portent. Je me rappelle avoir entendu Europe 1, écouter Europe 1, on entendait André Arnault tout à l'heure dans le générique de l'émission, et je me rappelle avoir entendu effectivement André Arnault dans les informations dans les années 60. Et donc avant de venir vous voir, j'ai demandé effectivement à mes parents comme ça, qui sont âgés maintenant, qui ont 80 ans, j'ai posé une question: depuis quand est-ce qu'on écoute Europe 1? Et on m'a dit spontanément, c'était avant la télévision. Alors avant la télévision à Bordeaux, la télévision c'était en 57, septembre 57, l'émetteur de Bouliac. Donc avant la télévision, c'était donc début 57 ou probablement 56. Donc je vais dire que j'ai 50 ans d'écoute d'Europe 1 derrière moi.
Dominique Babin.
Alors moi, c'est la concrétisation d'une ambition, parce que je m'étais promis tout petit qu'un jour je remplacerais Franck Thénault et Daniel Philippaki. C'est chose faite aujourd'hui, donc je vais peut-être annoncer un air de jazz.
Vous êtes aussi bon connaisseur de jazz?
J'aime bien le jazz, oui. Je ne suis pas aussi bon connaisseur que les deux personnes que je viens de citer. Mais
c'est une émission qui vous a amené à Europe 1?
C'est une émission qui m'a fidélisé à Europe 1 et qui m'a amené sur le jazz, ce qui fait que régulièrement je vais à tous les festivals de jazz qui gravitent dans la région. Mais je suis ni anosmique, et en tout cas je ne trouve pas Bordeaux visqueuse.
Bon, on reviendra sur la couture tout à l'heure, dont vous avez noté effectivement quelques expressions. Jean-Paul Taillardas, Journal Sud-Ouest.
Alors moi c'est terrible, j'étais handicapé parce que j'habitais plus au sud, et Europe 1 on ne pouvait le capter qu'à partir de 17h, ça tombait bien, c'était l'heure de Salut les copains. Mais jusqu'à 17h on ne m'entendait pas, et à partir de 17h ensuite j'enchaînais en tout cas Salut les copains, et puis j'ai des souvenirs, même j'étais petit, mais de Michel Cogoni le soir.
Dans le vent.
Et c'était, ouais. Mais c'était surtout, j'étais surtout branché sur Salut les copains.
Marc Druard.
Oui, moi c'était pareil, on était avec à l'époque Jean-Michel Desjeunes, et moi souvent je partais à Paris, on faisait des dégustations d'huîtres, on faisait des salons à Paris déjà à l'époque, et on avait rencontré Georges Simoneau qui était technicien rue François 1er, et moi j'allais ouvrir des huîtres tout naturellement rue François 1er.
Vous l'aviez rencontré comme ça, Jean-Michel
Desjeunes? Oui, non, parce qu'il y avait une ambiance, c'est vrai qu'il y avait une ambiance super, et à l'époque ils envoyaient directement depuis les pubs Matignon, les pubs Renault, on faisait des émissions de radio.
Et Drugstore,
moi,
oui.
Oui, Drugstore. Et moi, j'étais un peu émerveillé là-dedans. Mais il y avait Stéphane Collaro aussi qui était là tout jeune et qui commençait. Et c'était une ambiance de copains, quoi. C'était vraiment une ambiance sympa, quoi.
Et vous m'avez raconté tout à l'heure que vous avez même été jusqu'à carrément prendre un petit boulot à Europe 1.
Un soir, oui, effectivement, il y avait Jean-Michel Desjeunes qui demandait d'envoyer les vinyles, parce que c'était vinyle, avec encore les bras composés sur les disques. Et mon copain, là, Georges Simoneau, il était aux platines, enfin, c'était même pas les platines, c'était les tourne-disques, il était un petit peu débordé, il m'a dit, mets le disque, mets le bras. Et moi, j'ai mis le bras comme j'ai pu, mais ça a été quand même un peu kafkaïen, quand même.
Ça vous a pas incité à faire carrière? Une vocation n'est pas née ce soir-là?
Non, j'ai une carrière.
Mais auditeur, vous l'êtes resté?
Ah oui, complètement. Exactement, oui, toujours, parce que bon, aussi, avec Stéphane aussi, tous les sujets ont été couverts depuis des années aussi sur l'ostréiculture du bassin d'Arcachon.
Mais aussi, Stéphane, c'est le Stéphane Place qui est notre correspondant, voilà, et qui est à ma droite.
Mais avec aussi Bernard Abadie aussi, oui, pendant des années aussi. Voilà, où c'est qu'il y a toujours eu des moments extraordinaires de rire et de convivialité, souvent aussi agréables.
On a commencé l'émission avec un historien, un écrivain. On a le choix dans votre pays, mais j'ai pas retrouvé d'interview de Montaigne ni de Montesquieu. J'ai retrouvé en revanche un court extrait, quelques mots de François Mauriac, dont Jean Lacouture fut le biographe au passage. Une voix inoubliable à l'occasion d'un discours au théâtre de Bordeaux en 1965.
Je n'ai qu'à lever les yeux pour revoir ces deux places au paradis où un de mes frères et moi, nous étions montés en secret. C'était la première fois que je passais le seuil d'un théâtre. On jouait Mireille. Je devais avoir 14 ans. Me revoilà dans ce même théâtre, 65 ans plus tard, et le paradis dont j'approche n'est plus celui du Grand Théâtre de Bordeaux.
Ça évoque des souvenirs chez certains d'entre vous, des souvenirs d'écoliers, bien sûr. Est-ce que vous avez tous étudié Thérèse d'Escurou ou les mémoires intérieures de Mauriac, de Mick Babin? Je vous vois hocher la tête.
Ah, moi, ça évoque plus que des souvenirs scolaires. Ça évoque quelque chose de très précis. Je m'attendais pas à entendre cette retransmission.
C'est le but de l'émission. Hein.
J'y étais. Oui. J'y étais quand Mauriac a prononcé ce discours. Et je me souviens d'un moment, je ne vais pas imiter sa voix parce que j'en suis incapable, où il avait dit « Non, Bordeaux, je ne t'ai pas trahi ». Parce qu'il y avait toujours un peu ce procès en sorcellerie,
oui,
fait par les bons citoyens de Bordeaux vis-à-vis de Mauriac, qui avait dépeint la bourgeoisie bordelaise sous un jour qui n'est pas toujours à son honneur, si je puis dire, mais c'est des romans.
Il n'y avait pas que les citoyens de Bordeaux, parce que le jour de l'élection de François Mauriac à l'Académie française, un de ses prédécesseurs lui a dit, paraît-il, « À vous lire, monsieur, j'ai cru que vous alliez troubler l'harmonieuse image que je garde de votre région. J'ai failli prendre la Gironde pour un fleuve de feu et la Guyenne pour un nœud de vipère. » Vous comprenez qu'on ait pu dire ça à Mauriac ?
Ah, je comprends, parce que j'ai relu très récemment l'œuvre complète de Mauriac dans la collection bouquins, publicité non payée,
oui.
Et je me suis rendu compte qu'il avait quand même raconté des horreurs sur la société bordelaise. Mais, je répète, c'est le talent d'un grand écrivain et c'est du roman. Alors que les Bordelais, les mal vécus, je comprends aussi. Mais je dirais, ce cri de Mauriac avec sa voix éraillée, « Non, Bordeaux, je ne t'ai pas trahi », au moment où on célébrait son jubilé, je crois, c'était un moment, j'étais tout gamin à l'époque, et je peux vous dire que ça reste encore quelque chose qui me fait dresser les poils.
Qu'est-ce qui représente le mieux le caractère de cette région? J'ai envie de poser la question à l'homme de la mer, peut-être, Marc Druard, à l'homme de la terre, le caractère de cette région.
Je crois que vous l'avez dit en préambule, on est des Girondins.
Donc des révolutionnaires?
Pas des révolutionnaires, des gens entiers, des gens passionnés par une région. Je crois que c'est ça. Et ceux qui viennent d'ailleurs prennent ce caractère aussi.
Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que des révolutionnaires ou des Girondins n'ont pu qu'aimer une radio qui commençait et qui avait une image révolutionnaire au tout départ, Jean-Paul.
Ah ben, Europe 1 a été une révolution. On était dans un paysage, on l'a oublié, mais on avait quoi? On avait Paris Inter avec des speakers totalement coulés montés. On avait Radio Luxembourg et Radio Monte Carlo avec la famille du raton et le quitou double. On avait que ça. Et là-dessus, déboule Europe 1 avec les musiques qu'attendaient les jeunes. Les jeunes attendaient du rock, ils en ont eu. Les jeunes et les moins jeunes attendaient du jazz, ils en ont eu avec Europe 1. Ils ont eu droit à une information décoiffante. Albert Simon est arrivé à révolutionner la météo, là aussi.
Si beaucoup ont cru que c'était une voix artificielle.
Tout à fait, d'ailleurs. On se pose encore la question.
Non, il est parfaitement vivant, il va très bien d'ailleurs, je l'ai vu il n'y a pas longtemps.
Mais enfin, on avait de l'information pontifiante, on avait des gens dont on avait l'impression qu'ils sortaient d'un cours de théâtre sur les autres radios, et puis tout d'un coup, on s'est retrouvés, on a presque changé de siècle.
Vous avez chacun des émissions fétiches sur Europe 1, il y a des images où il y a des émissions qui viennent, j'allais dire, assez naturellement quand on parle d'Europe 1, quand on évoque Europe 1. Bernard,
c'est
Avril.
Vrai que c'est Salut les copains qui reste, je dirais, qui reste emblématique en quelque sorte de cette époque-là. Parce que quand on a, j'avais 16 ans, 17 ans, 18 ans, et donc j'avais un magnétophone, j'enregistrais Salut les copains, j'enregistrais le hit parade. Je regrette d'ailleurs de ne pas avoir gardé une de ces bandes, ça serait incroyable.
Oui, ça m'aiderait, oui.
C'est dommage.
Non, mais recherche.
Mais effectivement, ça reste l'émission emblématique qui a marqué. Mais je me rappelle un peu des informations. Mais c'est vrai que jeune, les informations étaient plus... Alors, on y attachait peut-être moins d'importance quand j'avais 10-12 ans. Mais je sais que mon père, je pense, a ou mes parents, du moins, ont pris Europe 1, comme disait monsieur, pour effectivement les informations. Je crois qu'ils devaient écouter peut-être Paris Inter, effectivement. Et puis, un jour, il m'a dit, il a tourné l'aiguille du poste, donc il est passé de quelques mètres plus bas sur les grandes ondes. Il a écouté une radio, c'était Europe 1. Il a dit une sentence, maintenant nous écouterons cette radio. Mm-hmm. Et ça a été terminé, on a écouté Europe 1.
Marc Douria.
Oui, c'est un peu pareil. Moi, c'était bercé par cette musique quand on avait 17, 18 ans, 19 ans. C'était toujours pareil. C'était la seule radio qui diffusait de la musique de jeunes. France Inter et enfin, les autres radios étaient beaucoup plus conventionnelles.
Ça n'existait pas, mais c'était un autre nom. Oui.
C'était vraiment, nous, on écoutait Europe 1 parce qu'on avait. C'était une radio de jeunes. Quoi. Il y a d'autres radios maintenant qui se disent de jeunes, mais la première radio jeune, ça a été Europe 1. Quoi.
Dominique Babin. Alors, moi, c'était plus pervers que ça parce que c'était un peu le fruit interdit Europe 1. C'était l'émission pour ceux qui aiment le jazz,
oui.
Qui passait tard, à une heure où normalement, à mon âge, on devait être un peu couché pour bien être d'aplomb à l'école le lendemain. Puis il y avait encore plus pervers que ça, c'était encore meilleur. C'était une émission de Jacques Lanzmann, animée par Jacques Lanzmann, je ne me souviens plus de son titre, qui racontait des histoires un peu cochonnes. Et ça, c'était formidable parce que alors je mettais le niveau tout bas pour que mes parents ne sachent pas que j'écoutais la radio. Ça devait être vers minuit, 1h du matin. C'était délicieux.
Ouais, bon, on en apprend des choses. On va retourner faire un petit tour dans nos archives. Une devinette, on écoute et vous me dites ce que vous en pensez.
Je vous laisse entendre le compte à rebours. Je vous laisse entendre les dernières secondes de ce compte à rebours.
2, 1, feu.
Une flamme rouge vient d'apparaître sous l'engin qui reste encore immobile 2 à 3 secondes. Le temps que la pleine poussée s'établisse.
Chapeau les barons.
Voilà, dans un nuage de fumée, Diamant arrache ses 18 tonnes 5 du sol et s'élève lentement.
Le satellite français 1 tourne autour de la Terre entre 530 et 1780 km. C'est un peu moins haut que ce que l'on prévoyait, et d'autre part, les signaux de l'engin sont reçus très faiblement. Pendant les heures ayant suivi le lancement, on avait même craint un moment que la mise en rotation de la fusée ait détérioré la balise équipant le satellite. Mais ces détails sont de très faible importance. Le but de l'expérience, en effet, c'était de tester la fusée Diamant en tant que lance-satellite. Or, de ce point de vue, l'opération a été un succès complet. Et en particulier, le délicat basculement de l'étage supérieur paraît s'être effectué avec une très grande précision. Les techniciens français sont si contents que, confirmation nous en a été donnée cette nuit, il n'y aura plus d'autres lancements expérimentaux de la fusée Diamant. Dès janvier, cette fusée sera en effet employée à mettre en orbite un premier satellite scientifique, D1, construit par le Centre national d'études spatiales et dont la mise au point est déjà à l'heure actuelle pratiquement terminée.
Alors vous avez reconnu la voix d'Albert Ducrot, nous sommes dans le désert algérien près de Colombéchard et vous venez de revivre le lancement du premier satellite français sur une fusée Diamant. Est-ce que les Bordelais qui sont autour de moi savent pourquoi? Marc Druard, non. Bernard Avril se pose la question. Dominique Babin, non, pas plus. Et Jean-Paul Deherdas, non.
Moi je retiens la musique d'Albert Ducrot.
La voix d'Albert Ducrot. Et bien sachez que c'est le radar à grande portée baptisé Aquitaine qui va suivre le satellite, baptisé lui Astérix, etc. C'est ce satellite qui va faire accéder la France au rang de troisième puissance spatiale. Et le satellite avait été construit, à votre avis où ça? Dans une société qui s'appelait Matra, basée à Bordeaux. Et le PDG de Matra, Jean-Luc Lagardère, gascon de son état, sera également le patron d'Europe 1. Et son fils Arnaud est toujours aux commandes. Et voilà ce qu'il fallait démontrer.
Marc Tronchot.
Les enfants d'Europe 1, ils sont aujourd'hui bordelais et ils sont autour de cette table puisque nous consacrons cette émission à Bordeaux. Et nous avons autour de notre table Jean-Paul Deherdas du journal Sud-Ouest, Dominique Babin de la Chambre de commerce et d'industrie qu'il dirige, Bernard Avril qui est exploitant, je vais dire vigneron parce que je trouve que c'est le mot le plus noble, Marc Druard qui lui donne plutôt dans l'huître, la conchiliculture, l'ostréiculture. Il faudra un jour qu'on m'explique ce que c'est, la différence d'ailleurs. Et je peux. Vous pouvez, allez-y, oui.
La différence, c'est
Dans la conchiculture, il y a trois métiers. Il y a l'ostréiculture qui est l'huître, la mythiculture qui est la moule et la vériniculture qui est la culture de la palourde. Et les trois font la conchiculture ou la conchiliculture, les deux se disent.
Voilà. Bon, et puis Stéphane Place qui est notre correspondant. On a entendu tout à l'heure la voix d'Albert Ducrot, consultant scientifique d'Europe 1. C'est une invention d'Europe 1 d'ailleurs que celle du consultant scientifique. Comme Europe 1 inventera le consultant sportif en rugby, par exemple, aux côtés sur l'antenne et avant qu'il ne devienne un nom de la télé, de Roger Couder.
Un jour, on m'a dit, tu es le spécialiste du rugby. Et j'ai répondu, non, j'en suis le prophète. Vous allez me dire, il est complètement fou, il se prend pour prophète, mais je crois qu'il y a du vrai là-dedans. J'étais un peu le prophète de sport, et je suis encore aujourd'hui devant ce micro. Je prétends qu'un jour, le rugby sera le sport, je parle là, vous serez plus là moi non plus, mais tout sera professionnalisé comme le tennis où un gosse de 16 ans est pris sous contrat par McCormack, on parle de centaines de millions, de milliards, tout ça, ça veut rien dire. Un jour, tout ça disparaîtra, il restera le seul sport qui restera, parce que lui n'a jamais flanché avec ses questions de fric. C'est le rugby.
On a quand même l'impression qu'on ne peut pas s'en aller comme ça.
Mais c'est vrai, on ne peut pas s'en aller comme ça. Je pense à... Et c'est ahurissant à tous les millions de gens qui vont écouter aussi bien sur Europe que la télévision. Et ça me rend fou, ça. Je me dis, mais en un match, j'avais autant d'auditeurs que Molière en a eu pendant toute sa vie. Alors ça me rend fou.
Et Roger,
et je regrette beaucoup et je leur dis au revoir. Ciao, mes amis.
Voilà, c'est une voix, c'est un son qui vous remue, qui rappelle de bons moments. Stéphane, je veux dire, vous êtes le plus jeune de tous ceux qui sont autour de cette table.
35 ans.
Et j'ai l'impression que c'est presque vous qui êtes le plus ému par le retour de cette voix tout d'un coup dans les haut-parleurs.
Oui, oui, c'est vrai que la voix de Roger Couder, moi, ça me renvoie à l'enfance. À l'époque, je jouais au rugby, j'étais gamin. Et je me revois avec mon père. Et c'est vrai que c'est vraiment un son, ouais, qui m'émeut beaucoup. Parce que ça rappelle des années. Franchement, oui, ça m'a fait bizarre d'entendre. Ça m'a fait bizarre d'entendre. La prophétie est juste, hein. Ce qu'il dit sur ce qu'allait devenir le rugby, etc. C'est juste. La réalité aujourd'hui, c'est que le fric est là. En revanche, le fric est là et il y aura peut-être des choses que Couder n'aurait pas aimé voir qui vont se produire dans les années à venir. Mais la voix de Couder, c'est impressionnant. Ouais.
Et la voix de Couder, aux côtés d'Al Baladejo, ce sera quelques grands, grands moments de l'antenne d'Europe 1. Prophète, disait Couder, où est-ce qu'il est le dieu en Aquitaine? C'est le dieu rugby, le dieu football ou aucun des dieux, si j'ose dire? Jean-Paul Taillardas, une idée sur la question?
Ah, pour moi, c'est le rugby.
Ouais.
Le football, je le situe plus précisément dans la ville, dans Bordeaux et alentour. Alors effectivement, depuis mon enfance, le football a progressé. Mais pour moi, le Sud-Ouest est essentiellement une terre de rugby, et en particulier l'Aquitaine.
Dominique Babin.
Ah ben, si le Sud-Ouest qui fait sa richesse, bon, il y a des magnifiques villes, mais c'est aussi un terroir. On ne parle pas de football de village, on parle de rugby de village. Et ce qui fait vraiment l'unité de notre région Aquitaine, je crois que c'est indéniablement le rugby.
Marc Drouard.
C'est vrai, partout on a toujours suivi aussi les matchs, que ce soit un match quand il y avait Bègue qui jouait à l'époque, c'était les grandes équipes, ça remuait. Mais même si on va un peu plus loin, qu'on sort du cadre de Bordeaux, si on va à Toulouse, et si Toulouse joue ou si Biarritz joue, on est aussi passionné, quoi. Donc c'est vraiment une terre, cette terre d'Aquitaine est une terre de rugby, c'est sûr.
Alors les Girondins de Bordeaux, pour leur cinquième titre de champion de France, acquis au Parc des Princes face à l'équipe du Paris Saint-Germain, les Girondins vont enflammer la ville. On se fait plaisir, le reportage d'un des correspondants d'Europe 1 cette nuit-là, dans les journaux du petit matin sur Europe 1.
Il est 6h42, Fabienne Lemoal.
C'était donc l'ambiance des grands jours cette nuit à Bordeaux pour fêter le titre de champion de France des Girondins. Reportage Nicolas Corne.
Cela faisait 12 ans que Bordeaux attendait ça. Dès le coup de sifflet final, c'est la ville toute entière qui a fêté jusqu'au bout de la nuit ce titre de champion.
C'est super, ça fait l'aboutissement d'une super saison. Ça fait 12 ans qu'on l'avait pas vu, je suis trop jeune pour le voir, je suis trop contente.
C'est une grande joie. Ah là, c'est l'apothéose aujourd'hui.
La France est champion du monde, Bordeaux est champion de France, donc on est champion du monde, tout court.
C'est magique.
C'est heureux, on est tous super contents, attendez, depuis le début du championnat. Bénard Bia l'avait dit, on l'a fait, on est vraiment tous super heureux.
Alors c'est la fête.
Et la fête, c'était dans les bars et dans les rues, mais surtout au stade Lescure. Plus de 35 000 personnes ont investi le stade bordelais à l'issue du match pour assister au retour triomphal des joueurs sur leur pelouse à 3 heures du matin. Un accueil exceptionnel a été fait à l'équipe et à son entraîneur, Eli Bop.
Bravo à tous les supporters. Bordeaux nous aime, on aime Bordeaux. C'est magnifique. Il faut dire merci à tous nos supporters, à tout Bordeaux, à tous les gens qui sont là ce soir. À une heure aussi tardive, bravo, et comme quoi on sait faire la fête et fêter les grands événements. Il n'y a pas de mots et ça va être de plus en plus dur tous les jours. Il faudra l'apprécier. Aujourd'hui, on est encore sous le coup de ce troisième but parce que ça a été difficile. C'est un titre qui revient à tout Bordeaux, à tout ce club, à tous les joueurs, à tout le staff technique, à tout le staff médical, à nos présidents, à tout le monde. Ce soir, c'est un moment de fête extraordinaire.
Deux heures durant, les nouveaux champions de France ont été acclamés par leur public. Les tours d'honneur n'en finissaient pas. Des instants inoubliables pour l'un des héros de la saison, le gardien de but Ulrich Ramé.
Ouais, c'est sûr que ça marque profondément. Et pour quelqu'un qui, comme moi par exemple, qui joue depuis peu, c'est un moment qui restera inoubliable.
Toute la nuit, la ville a fêté ses champions et ce couronnement attendu par une génération entière de jeunes supporters girondins. Un soutien en forme de remerciement pour toute la saison passée et ses multiples rebondissements jusqu'au dernier moment. Bordeaux, Nicolas Corne, Europe 1.
Nicolas Corne, on a bien entendu qu'il avait la voix lui-même un petit peu éraillée. La nuit avait dû être un tout petit peu difficile. Une expérience que vous partagez, Stéphane.
Oui, ça arrive.
Solidarité, ça arrive.
Ça arrive.
Il y a encore une voix. On va passer à tout autre chose qu'on ne peut pas ne pas réécouter tant le personnage est emblématique de Bordeaux. C'est celui qui va présider aux destinées de la ville pendant près d'un demi-siècle. Son maire, Jacques Chaban-Delmas, extrait d'une interview diffusée sur l'antenne d'Europe en 1967. C'était alors l'inauguration du fameux pont d'Aquitaine.
Ses caractéristiques principales ont trait à son importance. C'est un pont d'une très grande longueur puisqu'il a près de 1900 mètres de longueur totale, et ce qui a entraîné la mise en œuvre de moyens, je ne veux pas dire fantastiques, mais néanmoins énormes. Une seule culée, celle de la rive droite, est d'une importance comparable en bloc d'ancrage au bloc d'ancrage de l'Arc de Triomphe à Paris. C'est dire que nous sommes en présence réellement d'un ouvrage de catégorie internationale.
Le montant total des sommes dépensées s'élève à combien ?
Aux environs de 110 millions de nos francs actuels, c'est-à-dire de 11 milliards d'anciens francs. Ce grand pont de Bordeaux présente un intérêt non seulement local, mais régional, et même national et international. Et l'une des raisons est évidemment l'amélioration de la circulation nord-sud. Amélioration non seulement pour les poids lourds, pour le trafic économique proprement dit, mais également pour le tourisme et pour, comme vous le dites, les vacances. Il y aura là une grande amélioration.
Monsieur le maire, est-ce que votre pont et son autoroute seront à péage ?
Vous êtes bien gentil de dire mon pont, mais dans une certaine mesure, je dois dire que je ne suis pas choqué par l'expression. Non, le pont et l'autoroute ne seront pas un pont et une autoroute à péage.
Qu'on ait voté pour lui ou pas, c'est un personnage historique. Il a été Premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale, il a eu des envolées célèbres, il a eu des discours célèbres, il a peut-être été en avance sur son temps et certains ne lui ont pas pardonné. Il a été maire de Bordeaux. Je voudrais savoir, les Bordelais qui sont autour de moi, quelles sont les associations d'esprit, les images ou les souvenirs que font naître justement le fait de réentendre sa voix. Marc Druyère, je vous vois sourire un tout petit peu.
Oui, parce que nous, les gens du bassin, on n'a jamais été des Bordelais.
Oui.
Mais les Bordelais venaient souvent sur le bassin d'Arcachon.
Oui.
Et le paradoxe, c'est qu'il y a d'autres maires qui viennent souvent sur le bassin. Alain Juppé vient sur le bassin, Hugues Martin vient sur le bassin, alors que Jacques Chaban-Delmas ne venait jamais sur le bassin. Il savait même pas ce que c'était que l'ostriculture du bassin d'Arcachon. Ça a été un grand dame des ostriculteurs, souvent de reprocher à un homme, quand même un personnage d'État, qui était le président Chaban-Delmas, de ne pas venir, de ne pas s'occuper ou s'intéresser Il s'est intéressé à Biarritz, il s'est intéressé au golf, il s'est intéressé à Côte-Basque, mais il ne venait jamais sur le bassin d'Arcachon. Donc ça, c'était, ça nous est toujours resté un peu en travers. Quand
il fallait que cela fût dit. Dominique Babin.
Oh, écoutez, quand on l'entend, c'est une voix. Pour une radio, c'est quelque chose d'important. C'est le charme. Il savait séduire les femmes, les hommes. Il savait parler, il savait trouver le mot. Et puis... faisait référence à une époque, la réalisation de ce pont. Moi, ça me fait un peu rêver, ça développe une grande nostalgie, parce que c'était l'époque où on pouvait réaliser de grandes infrastructures sans avoir 118 comités de défense qui signaient des pétitions pour empêcher la moindre coulée de béton.
Bernard Avril.
Ouais, moi, je me rappelle avoir croisé Jacques Chaban-Delmas pendant des... au syndicat viticole, parce qu'il était souvent invité tous les ans. Il venait, il avait un grand banquet, il était souvent présent. Et... j'avais pris l'habitude comme ça de l'accueillir quand il arrivait à sa voiture, et, fidèle à lui-même, il serrait la main et hop, il montait l'escalier.
4 à 4,
voilà. Et je ne vais pas dire que j'ai de la peine à le suivre. Je lui dis, vous êtes toujours comme ça? Il me dit, il me regardait, mais oui, bien sûr, moi j'ai un ami, je suis toujours comme ça. Puis après, bon, c'est le... je veux dire, après, une fois qu'on... enfin, moi, je suis pas, j'habite pas Bordeaux, donc enfin, je l'ai quasiment toujours connu, puisque je crois qu'il a été maire en 47, voilà, donc je l'ai toujours connu comme maire, et puis ensuite, bon, on a quand même appris, l'homme qu'il a été, je dirais, pendant la guerre. Bon, effectivement, on va à Paris, on va à Montparnasse, on regarde la plaque qui commémore la libération, enfin, la reddition des Allemands à Paris, il y a le nom de Jacques Chaban-Delmas dessus.
Jean-Paul Desjardins.
Écoutez, moi, je ne l'ai approché que vieillissant, donc c'est très émouvant de se rappeler qu'il a quand même été à un moment donné un visionnaire, parce que ce pont d'Aquitaine, il l'a porté à bout de bras, il l'a voulu. Voilà, évidemment, Chaban est un personnage incontournable de la ville. On peut penser qu'il a, à un moment donné, peut-être fait un mandat de trop. Et c'est, hélas, aujourd'hui, ce qui reste de lui. C'est-à-dire une espèce d'ombre au Palais Rohan, un homme vieilli, malade, un peu en dehors du coup, alors que, à un moment donné, il a été très en avance, oui.
Ça a été difficile de prendre la suite, néanmoins. Stéphane ?
Oui, c'était pas simple, parce que, en plus, on avait un séducteur. Chaban, même sur la fin, parce que ce que dit Jean-Paul est juste, moi, j'ai le souvenir de ce dernier mandat, celui que l'on a qualifié comme le mandat de trop. Effectivement, Chaban vieillissant. Mais c'était quand même un séducteur. Ça restait un séducteur. Et les premières années Juppé, on a tout de suite senti que l'approche n'était pas la même. Il fallait que ça avance, que ça bouge, que ça soit efficace, et tant pis un peu pour la séduction. C'était en plus le Juppé Premier ministre 95, entre Paris et Bordeaux, pas toujours beaucoup là. Et tout d'un coup, les Bordelais se sont dit, on a un Premier ministre, un de plus, puisque Chaban l'avait été, mais le rapport de séduction était manifestement pas une priorité. Donc là, il y a eu un changement. Et cette séduction de Chaban, même sur le dernier mandat, on l'a percevait quand même. C'était un personnage qui avait marqué l'histoire, qui avait cette voix nasillarde. Et quand on est journaliste en radio, évidemment, c'est quand même pas un élément totalement neutre. Ça laisse des souvenirs. Et Chaban était un personnage impressionnant.
Alors, l'inauguration du pont d'Aquitaine, c'était en 67. Quelques mois plus tard, nous sommes en 68. Et ça a beaucoup tangué ici. Allez, on va faire appel à un journaliste maison pour faire marcher les souvenirs. Interview dans l'émission Campus le 25 mai d'un correspondant d'Europe numéro 1 à Bordeaux. Interview efficace, vous allez l'entendre, menée par l'ami François Jouffa.
À Bordeaux, on dresse toujours des barricades dans la rue?
Oui, de nouvelles barricades. L'une d'elles vient d'être établie derrière la faculté des lettres, face à la clinique Paulbert, rue Paulbert, et cette barricade atteint maintenant 3 mètres de haut.
Les barricades précédentes ont été détruites par la police?
Oui, les barricades précédentes ont été brûlées par les manifestants et détruites par la police qui les a prises assez rapidement.
Combien sont-ils dans la rue?
Ils sont environ 1500, mais il est difficile de donner un chiffre car ils sont très éparpillés par petits groupes dans toutes les rues avoisinant la faculté des lettres.
Et dans la faculté des lettres, des étudiants sont retranchés. Combien sont-ils ?
Oui, il y a encore des étudiants à l'intérieur. Ils ne sont pas encore sortis. On les évalue à environ 1 000.
Que font-ils ?
Eh bien, ils attendent les événements. La faculté des lettres est cernée complètement par les forces de l'ordre. On sait simplement que les étudiants ont stocké à l'intérieur de la faculté des lettres de nombreux pavés.
Le point sur les blessés?
Il y a des blessés grièvement atteints parmi les forces de l'ordre. Un CRS a été grièvement blessé. Ses poumons ont été perforés. Il y a également des blessés assez graves parmi les étudiants. Une jeune fille a eu des côtes fracturées et un jeune homme a été blessé très grièvement au visage par une grenade offensive.
Alors parmi les enfants d'Europe 1 qui sont autour de cette table, il y en a au moins deux à avoir vécu ces événements à Bordeaux, Dominique Babin, Bernard Avril. Dominique,
Moi c'était un drame cornélien, parce que j'étais étudiant, donc contestataire, on peut pas échapper à son destin, et il se trouve que mon père était à ce moment-là recteur de l'Académie de Bordeaux. Donc vous imaginez les débats familiaux hauts en couleur et surtout extrêmement toniques et quelquefois tonitruants.
Les enfants d'Europe 1 réunis aujourd'hui à Bordeaux, sur les bords de la Garonne, dans le village rugby, qui a été installé donc quai des Chartrons, en compagnie des enfants d'Europe 1 que Stéphane Place, notre correspondant, nous a invités autour de cette table, et parmi Bernard Avril, qui est vigneron, Dominique Babin, qui est le responsable de la Chambre de commerce et d'industrie, Jean-Paul Taillardas du journal Sud-Ouest, et Stéphane Place, bien sûr, qui nous accompagne. On a écouté tout à l'heure leur reportage de mai 68 à Bordeaux. Un an plus tard, nous sommes donc en 69, on voit débarquer au théâtre de l'Alhambra à Bordeaux une dame en noir. Vous voyez de qui je veux parler, et vous savez peut-être pourquoi elle est là. Ce sera un concert diffusé intégralement sur Europe numéro 1 en direct de Bordeaux, dans le cadre de l'émission Campus de Michel Lancelot. Un trop court extrait, une petite cantate.
Monte vers toi, une petite cantate comme nous jouions autrefois. Seule je la joue maladroite, si mi la ré sol do fa. Cette petite cantate fa sol do fa n'était pas si maladroite quand c'était toi. Les notes courent et faciles, heureuse au bout de tes doigts. Moi j'étais la malhabile, si mi la ré sol do fa. Et tu es parti fragile vers l'au-delà. Je reste malhabile, face à le dauphin. Je te revois souriante, assise à ce piano-là, disant bon, je joue, toi chante, chante, chante-la pour moi. Similaré, similaré, si sol dauphin. Similaré, similaré, si sol dauphin. Oh mon ami, oh ma douce, oh ma si petite à moi. Mon Dieu, qu'elle est difficile, cette cantate sans toi. Une petite prière, la da na da. Une petite prière, mais sans un signe de croix. Quelle offense, Dieu le Père, il me le pardonnera. Similaré, similaré, si sol dauphin. Similaré, similaré, si sol dauphin. Les anges avec leurs trompettes la joueront, joueront pour toi. Cette petite cantate que nous jouions autrefois. Les anges avec leurs trompettes la joueront, joueront pour toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. Similaré, similaré, si sol dauphin.
1969, au théâtre de l'Alhambra à Bordeaux, la dame en noir, Barbara, un concert exceptionnel qui était dédié aux Bordelais, en réponse à la jeunesse bordelaise qu'il avait appelée quelques mois plus tôt. Hein. C'est un petit peu l'histoire, Jean-Paul Taillardas.
Oui, c'est une jolie histoire. Ce sont les Bordelais qui téléphonent à Europe 1, qui écrivent à Europe 1 pour dire ben, chez nous, il se passe pas grand-chose. On entend Musicorama, on sait tout ce qui se passe à Paris. Et nous, on n'a rien. Et Barbara entend ça ou apprend ça. Il dit, ben, c'est pas grave, je descends, je fais un concert à Bordeaux. Et ça devient un Musicorama, donc diffusé sur l'antenne d'Europe 1, et qui ensuite a été, si je ne me trompe pas, édité en disque.
Absolument, il a été édité en disque par une société qui s'appelle RTE, je crois, avec Europe 1 d'ailleurs, puisqu'il y a le logo Europe 1 sur ce disque de ce concert à Barbara, et c'était effectivement dans l'émission Campus de Michel Lancelot que Barbara avait effectivement, disons, été sensible à cet appel des jeunes Bordelais qui trouvaient que, ma foi, on ne leur amenait pas suffisamment de spectacles dans leur belle ville. Dans les émissions emblématiques d'Europe 1, il y en a une que j'affectionne particulièrement, et vous serez sans doute d'accord avec moi si je vous dis Pierre Bonte, vous me répondez bonjour monsieur le maire, évidemment, et bonjour monsieur le maire, comme on ne peut pas faire une émission dans ce pays sans parler vin, et ben Pierre Bonte a choisi pour vous le maire de Fronsac.
Ici Pierre Bonte. Cela peut paraître curieux, mais ce qui a fait pendant des siècles la gloire et la force de Fronsac, c'est une petite colline d'à peine 80 mètres de hauteur. Cela dit, Fronsac est surtout une commune viticole, et la réputation de ses vins est encore plus grande, je crois, que celle de son tertre. Écoutez plutôt monsieur le maire, monsieur Delanoz.
Fronsac est une commune viticole qui produit des vins, n'est-ce pas, qui sont excellents.
En ce qui concerne les caractéristiques du vin, je crois qu'il faut d'abord situer la couleur chaude, veloutée. Je crois qu'il faut également dire que c'est un vin vigoureux. C'est un vin que certains trouvent peut-être un peu trop violent quand on le goûte pour la première fois. Oui, trop nerveux, trop musclé. Lorsque le temps a passé, c'est-à-dire au bout de 4 ou 5 ans, alors il s'est fait, il est devenu beaucoup plus onctueux et il se fait mieux connaître. Il faut le laisser vieillir. Alors ensuite, il a aussi un parfum tout à fait particulier et il faut commencer par le sentir avant de le goûter. Il faut également, comme tous les bons vins, comme tous les grands vins, il faut le boire sur des mets qui correspondent à ce vin-là.
C'est-à-dire
que moi, je le vois très bien sur un gibier. Je le vois très bien sur des grillades. Évidemment, tous les vins vont bien sur le fromage. Il n'y a pas de problème.
Pour faire mieux connaître ces vins de Fronsac qui, pendant trop longtemps, ont vécu un peu à l'ombre de leurs deux grands voisins, les vignobles de Pomerol et de Saint-Émilion, eh bien, les vignerons de Fronsac ont créé tout dernièrement une confrérie, la confrérie des gentilshommes de Fronsac. Pourquoi cette appellation? C'est ce que Claude Bobin a demandé à Maître Froidevaux, le premier gentilhomme de la confrérie.
Eh bien, nous avons donné ce nom de gentilshomme à notre confrérie, parce que le duc de Richelieu, qui a séjourné fort longtemps dans la région, a été le premier gentilhomme du roi. Ce qui fait que nous avons pensé que nous pouvions allier le nom de gentilhomme à notre confrérie, parce qu'il y a dans le mot gentilhomme quelque chose qui convient assez bien à notre pays et à notre vin, c'est-à-dire quelque chose d'assez primesautier et en même temps d'assez frivole, mais aussi d'assez sérieux.
Bernard Avril, quand on entend un maire parler de la vigne, du vin, en ces termes-là, ça doit faire plaisir, non? Quand on est du cru.
Oui, tout à fait, parce que bon, Fronsac, ce sont mes voisins, puisque j'habite la commune d'à côté, j'habite à Galgo. Donc effectivement, la confrérie des gentilshommes de Fronsac existe toujours. Et la référence qui faisait à Saint-Émilion, effectivement, le banc des vendanges de Saint-Émilion existe toujours. On serait peut-être un peu plus réservé maintenant sur les descriptions que monsieur le maire a fait du vin de Fronsac, parce que bon, je crois que maintenant on ne le vinifie plus pour qu'on faille attendre 4 ou 5 ans pour le boire. On a des techniques de vinification qui permettent à la fois de le garder, mais de le boire, j'allais dire, de pouvoir le boire un peu plus précocement, mais effectivement, ça un côté, on sent la passion de l'homme attaché au terroir et je dirais physiquement et viscéralement quelque part attaché au terroir et qui aime le faire connaître.
Et pour l'homme de la terre que vous êtes, le fait qu'une radio ait pu consacrer une émission à des gens qui parlaient justement de leur terre, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui?
Oui, c'est quelque chose alors qui manque, je ne sais pas, mais c'est quelque chose que j'écoutais en effet, parce que c'était une émission qui passait très tôt le matin, vers, je crois que c'était à moins 10, donc je l'entendais tous les matins, effectivement, avant d'aller à l'école, avant d'aller au lycée. Et donc, c'était quand même un portrait vivant de la France, qu'aujourd'hui on qualifierait de profonde, parce que bon, c'était souvent quand même de petites communes, c'était souvent des petites histoires, parfois dans la grande, mais ça avait ce côté charme, ça avait ce côté terroir, ce côté vrai, j'allais dire. Mm-hmm. Voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on pourrait faire une émission comme ça? Peut-être que oui, je ne me prononcerai pas.
Dominique Babin, quel est le rapport qu'entretiennent les Aquitains, j'allais dire les Bordelais, avec le vin? C'est un rapport commercial, c'est un rapport d'amour, c'est un rapport de terre?
C'est un rapport fusionnel. D'abord, grâce à son vin, Bordeaux est la seule ville dans le monde qui a pratiquement un nom de marque internationale. Bordeaux, c'est connu mondialement. Et puis, c'est effectivement, sur le plan économique, quand le vin se porte bien, Bordeaux se porte bien. Quand il y a des problèmes de mévente ou de concurrence internationale un peu farouche,
eh bien, l'économie générale de la Gironde et même de l'Aquitaine s'en ressent fortement. Ouais. Donc, il y a, je dirais, une relation de dépendance très forte de cette région par rapport à l'économie viticole.
Stéphane ?
Oui, je crois que c'est complètement indissociable, effectivement, de ce que l'on vit même au quotidien, quand on discute avec les Bordelais. La vigne, le vin, c'est omniprésent d'un point de vue économique et bien au-delà d'un point de vue culturel. Et quelle que soit la génération, moi, mes copains qui sont trentenaires entretiennent un rapport culturel avec le vin. C'est-à-dire qu'on va voir un peu les vendanges, on va se balader dans les vignes, on s'intéresse à la vinification, on ne boit pas du vin, on le déguste. Et ça, très vite, à Bordeaux, c'est vraiment complètement inscrit... J'allais dire assez tôt dans sa vie d'adulte.
On dit fier d'être bourguignon, c'est un abus de langage. On devrait dire aussi fier comme un bordelais, Dominique Babin.
Pour vous donner un exemple, l'aéroport de Bordeaux est le seul aéroport d'origine contrôlée dans le monde, puisque nous avons une vigne sur l'aéroport. Il y a du vin de l'aéroport de Bordeaux. C'est vous dire la relation fusionnelle entre le côté high-tech de l'aéroport et puis ce côté traditionnel de la vigne. Donc vraiment, tout ça est très mélangé.
On peut écouter Europe 1 en cultivant sa vigne, Bernard Avril.
Oh, bien sûr, moi j'écoute Europe 1, enfin peut-être pas sur le tracteur, peut-être pas en travaillant, mais enfin oui, bien sûr.
Vous vous souvenez de la visite de la reine d'Angleterre en 92 à Bordeaux ?
Je me souviens de la visite de la reine d'Angleterre parce qu'il me semble que la reine avait dit dans un français quasiment parfait, elle avait rappelé qu'à Bordeaux, les rois d'Angleterre buvaient du Bordeaux pendant que les rois de France buvaient des vins de Loire, il me semble. J'avais retenu cette phrase.
Ça vous dirait de la réécouter ?
Ah, tout à fait.
Oui. Reportage de Bernard Abadie que je salue parce qu'il a fait partie effectivement des correspondants historiques. Nous sommes le 6 décembre 92. Messieurs, la reine.
Vive la reine ! 10 heures précises, le Britannia est à deux pas, Sa Majesté arrive devant le Grand Théâtre de Bordeaux, tout y est. L'ASM décapotable, le tailleur beige, chapeau de la même couleur, le prince Philippe accompagne, garde républicain dans le hall 18e siècle, casque d'argent sur ton pierre, c'est superbe. Quelques dizaines de notables, dernier discours de Sa Majesté en français, hommage à Bordeaux et au Bordeaux, of course.
Si les liens historiques entre la Grande-Bretagne et Bordeaux ont leur importance, la tradition marchande est encore plus forte. Les habitants de Grande-Bretagne apprécient depuis des siècles les qualités du vin qu'ils ont toujours baptisé Claret. Le docteur Johnson n'était déjà plus de son temps quand il déclarait que le Claret était bon pour les jeunes gens, le Porto pour les hommes et le Cognac pour les héros. Pas un mot pour les femmes, vous remarquez. Et de fait, nous, Britanniques, goûtions déjà le vin de Bordeaux quand les rois de France professaient encore leur préférence pour l'Anjou ou le Bourgogne.
Réponse de Monsieur le maire, en français et en pleine forme.
Madame, le passé, le présent et l'avenir nous conduisent à nous réjouir infiniment et à prier Votre Majesté, en acceptant nos voeux de bonheur et de prospérité, de nous considérer comme les respectueux acteurs de son bon plaisir. Vive la reine !
Sa Majesté sourit, tout comme lorsque quelques instants plus tard, à la mairie, Jacques Chaban-Delmas lui offre un Tastevin spécial quartier, Alain-Dominique Perrin, son PDG.
Il s'agit d'un Tastevin en argent, un Tastevin d'une forme assez contemporaine et sobre, comme quartier sait le faire, avec un pied entouré du fine bague 3 or. Il est en argent massif, bien entendu. Et la reine, je dois dire, m'a fait beaucoup d'honneur parce qu'elle est venue spécialement me remercier dans les salons de la mairie. Elle a dit qu'elle avait beaucoup aimé cet objet. Je crois que le Tastevin est vraiment la chose la plus symbolique de cette région.
Actuellement, au dehors, c'est une garden party de 2000 personnes. Les femmes sont belles. Bordeaux retrouve ses habitudes. Bordeaux, Bernard Abadie, Europe.
Pas mal, hein.
Ah oui, pas mal. Et puis Stéphane. Bon, Abadie, c'est un personnage quand même. Donc voilà, ça fait du bien de retrouver sa voix. Je pense à lui. Je pense à Laurent Guimier également, qui m'a précédé.
Ouais. La rencontre, en tous les cas, entre la royauté et la République peut donner de bons moments. Bernard Avril, vous étiez parfait parce que vous aviez un souvenir extrêmement précis de ce moment-là. C'est la reine qui vous a tapé dans l'œil, quoi.
Non. La reine ne m'avait pas tapé dans l'œil, mais bon, je me rappelle très bien de cette phrase. Effectivement, je me rappelle de cette phrase parce que j'avais trouvé d'abord que c'était très juste. effectivement, en plus c'était très flatteur, en plus c'était dit en français. Donc, et puis cette visite avait, je crois, avait quand même marqué les Bordelais. C'est vrai que bon, je pense plus, je crois que le Britannia a été vendu, donc on est plus, probablement plus près de le revoir sur les quais là, de Bordeaux, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était assez extraordinaire d'avoir le yacht royal amarré juste en ville.
C'est une des dimensions d'ailleurs de la ville qu'on oublie parfois quand on n'y est pas, quand on n'y vit pas ou quand on n'en a pas la culture, c'est la dimension maritime, c'est le côté port. Là, on est sur le quai des Chartrons. C'est de là que partait le vin, non, si j'ai bien compris.
C'est de là que partait le vin, c'est de là qu'il est parti pendant très longtemps, probablement jusqu'à l'entre-deux-guerres, ou peut-être un tout petit peu après la guerre. Hein, je me rappelle effectivement, bon, les quais n'étaient pas comme maintenant, donc ils étaient encombrés de grues, de hangars, etc. Et mon père qui avait fait un peu de transport dans ces époques-là aussi, de remonte aux années, au début d'Europe, mais, alors nous soyons dans les années 50, je me rappelle être venu avec lui effectivement sur un port qui était assez grouillant à l'époque. Il y avait effectivement au milieu de pas mal de marchandises, il y avait aussi des barriques de vin. Mais bon, après, ça a décliné relativement rapidement. Et dans les années 60, c'était un petit peu fini, parce que d'autres modes de transport ont pris le dessus.
Que représente le commerce maritime? Là, je m'adresse plutôt au président de la Chambre de commerce et d'industrie, au responsable de la Chambre de commerce et d'industrie, Dominique Babin, aujourd'hui.
Le port n'est plus vraiment dans Bordeaux aujourd'hui. Il faut se concilier, je dirais, les impératifs d'une ville moderne et puis surtout du site exceptionnel qui ne serait plus compatible avec la présence des grues et des cargos qui viennent d'être évoqués. Donc maintenant, on a besoin de ports en eau profonde. Ils sont plutôt vers l'entrée de l'estuaire, à partir de Bassins jusqu'à la pointe de Grave. C'est une activité importante, même si on peut regretter que le vin ne transite plus par le port de Bordeaux. Les Bordeaux sont expédiés maintenant, malheureusement, à partir des ports du nord de l'Europe, ce qui n'est plus très dans la logique du développement durable, hein, puisqu'on est obligé de les camionner ou de les mettre sur des wagons pour les envoyer à Rotterdam. Mais voilà, on est en train de se battre actuellement pour essayer de reconquérir ce trafic maritime, mais il y a d'autres trafics, le trafic des céréales, le trafic du bois, et le port est en train de faire sa reconquête.
On a un peu bouclé la boucle, puisque l'émission se termine, et promis, on essaiera d'en faire d'autres dans d'autres régions assez régulièrement, et puis nos archives, eh bien, elles doivent vivre pour ne pas faire oublier. Merci à tous, merci de votre participation, et merci à Stéphane Place de son aide précieuse, comme à l'habitude, et à vous tous, une bonne fin de journée, une bonne semaine, et une très belle radio.
C'était Marc Tronchot.